Alors, je voudrais revenir sur le passage d'Actes chapitre 8 qu'on a lu tout à l'heure, celui de la rencontre entre Philippe et ce dignitaire éthiopien. Je trouve que c'est un récit très beau, très intéressant, qui nous permet de voir en quelque sorte le processus qui conduit au salut en Jésus-Christ. Il s'agit, j'allais dire, d'une triade, la triade du salut. D'abord, le rôle essentiel joué par la parole de Dieu, l'Écriture sainte, dans la conversion de cet homme. Lorsque Philippe s'est approché de lui, cet homme était en train de lire un texte de la Bible, Ésaïe chapitre 53, un passage parfaitement approprié à la situation, car c'est celui de l'Ancien Testament qui a marqué le plus le langage des auteurs du Nouveau Testament. Celui dont le Christ s'est souvent servi pour parler de sa mission sur cette terre. Au cours de son ministère, Jésus a démontré que ce cantique du serviteur souffrant, comme il est désigné dans la Bible, le concernait directement. Il y a dans les évangiles des versets, des passages qui montrent que Jésus applique ses paroles à sa vie, à son ministère parmi les hommes. Et on sait bien que ce chapitre parle de ce que le Christ a fait sur la croix, son sacrifice pour effacer le péché de l'humanité tout entière. Or, la lecture de ce texte a amené cet homme à s'interroger et à poser cette question du verset 34. De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Cette bonne question a permis à Philippe d'apporter une bonne réponse et de lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car ce passage parle effectivement de Jésus-Christ, le sauveur du monde, le serviteur de l'Éternel qui a, comme dit le texte, souffert comme un agneau en silence, un agneau qui n'a pas ouvert sa bouche. Dans le Nouveau Testament, il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est donc celui que Dieu a envoyé parmi nous pour régler le péché, nos péchés, le péché de l'humanité. Et ce passage que l'Éthiopien était en train de lire expose donc ce que le Christ a fait. Ce passage expose tout cela grâce à ce serviteur souffrant qui a donné sa vie. Les hommes maintenant peuvent être réconciliés avec Dieu. Il y a plusieurs éléments dans ce passage qui montrent que cet homme s'intéresse à la question spirituelle. Le fait de lire les Saintes Écritures, le chapitre 53 d'Ésaïe. Était-ce une coïncidence que cet homme lise ce texte? Je ne pense pas. Je crois que c'était Dieu qui était en train de travailler déjà dans son cœur. Peut-être qu'à Jérusalem, il avait déjà entendu des choses sur le Christ. Le fait d'effectuer un long voyage d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour adorer, dit le passage biblique, pour adorer. Donc c'était un homme qui était pieux, n'est-ce pas, qui avait déjà quelque chose dans son cœur. Le fait de poser des questions sur la foi et notamment sur le baptême. C'est celui qui pose la question du baptême à Philippe. Hein? C'est lui. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc ces éléments-là nous donnent des indices sur sa foi, sur son désir de connaître davantage Dieu. C'était un homme en recherche. Or Dieu dit dans sa parole que celui qui le cherche le trouve, s'il le cherche de tout son cœur. C'est ce qui est arrivé à ce dignitaire ce jour-là. Il a cherché Dieu et il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Et l'un des moyens que Dieu a utilisé, donc, c'était sa parole, ce chapitre 53 du prophète. Encore sur le rôle important joué par les Écritures, le texte dit au verset 35 que Philippe a pris comme point de départ ce fameux passage d'Ésaïe 53 et commençant par là, il lui a annoncé l'évangile du Christ. Cela me rappelle cette autre parole de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains qui dit que la foi naît du message que l'on entend et ce message c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. D'où la nécessité donc de prêcher la parole, de la proclamer, de l'annoncer, de l'enseigner. Le fond du message chrétien doit s'appuyer sur la parole de Dieu et ainsi inciter les personnes à reconnaître leur état de pécheurs, leur situation de séparation d'avec Dieu, puis annoncer la repentance, la foi en Jésus-Christ. Et quand l'Écriture est annoncée, elle ne revient pas sans produire du fruit, c'est ce que la Bible dit. Dans Ésaïe chapitre 55, nous lisons « Tournez-vous vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver, adressez-vous à lui tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Dans un autre passage, la Bible dit que la parole de Dieu est comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Et la preuve, c'est que c'est ce que l'Évangile a déjà fait dans des milliers de personnes un peu partout dans le monde, même parmi des personnes qui avaient le cœur très dur, n'est-ce pas ? L'Évangile les a transformés. Et la preuve aussi, c'est ce qui s'est passé avec cet homme, avec cet Éthiopien. Il a été transformé par la parole de Dieu. Donc, première leçon, la Bible, parole de Dieu, voilà ce que nous voulons annoncer au monde, parce que c'est là que nous trouvons le fondement de la foi chrétienne. Et l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le deuxième élément, c'est le rôle joué par le Saint-Esprit dans la conversion de ce dignitaire. C'est le Saint-Esprit, dit le texte, qui pousse Philippe à aller vers cet homme, aller dans le désert, dans une route qui menait en Égypte, en Afrique, n'est-ce pas ? Et donc c'est le Saint-Esprit qui le conduit à s'approcher de cet homme. Nous lisons verset 29, « L'Esprit dit à Philippe, avance, va jusqu'à cette voiture. » C'est donc le Saint-Esprit qui donne l'impulsion, qui donne le courage à Philippe de s'approcher pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle à cet homme. Cet homme qui était un homme de condition élevée, parce que c'était lui qui gardait les sous du royaume, n'est-ce pas, de Candace. C'était un homme qui voyageait sans doute avec beaucoup de serviteurs. C'était un homme qui vivait sans doute dans le faste. Et l'Esprit Saint dit à Philippe de s'approcher de cet homme. Cela me fait penser à ce que Jésus avait promis à ses disciples avant son ascension, lorsqu'il disait « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » En fait, lorsque Jésus a donné l'ordre aux disciples d'aller partout annoncer la bonne nouvelle, « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Il serait avec nous, il est toujours avec nous, mais par son Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous accompagne et qui nous dirige. Dans un autre passage, le Seigneur Jésus dit à ses disciples qu'après son départ, il leur enverra le Saint-Esprit avec un but précis, celui de convaincre le monde, je cite, convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est intéressant de noter que le Saint-Esprit envoie Philippe accomplir une mission d'évangélisation sans que celui-ci connaisse le détail, ce qu'il attend, dans le détail ce qu'il attend, n'est-ce pas ? Ni le but précis de sa mission. Mais le texte nous dit que Philippe est allé promptement, en courant, parce qu'il a compris que c'était Dieu qui était en train d'agir. C'était Dieu qui était en train d'agir et il allait faire quelque chose d'extraordinaire. Les chapitres, le même chapitre 8, par exemple, verset 12 nous dit que Philippe a été puissamment utilisé par le Saint-Esprit dans la conversion de beaucoup de monde, de foules. C'était quelqu'un qui prêchait l'Évangile à des foules, mais là, il était en train de s'adresser à un seul homme. Et le verset 12 dit que quand ils crurent Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du règne de Dieu, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Cela montre que l'important pour nous, c'est d'être à l'écoute de ce que Dieu nous dit par son Saint-Esprit qui nous parle, être à l'écoute du Saint-Esprit. Le troisième élément, pour terminer, qui joue un rôle important aussi, c'est l'homme. C'est l'homme. Dans le récit que nous venons d'examiner, c'est Philippe que Dieu utilise. Mais ça peut être vous et moi que Dieu veut utiliser aussi dans l'annonce de la bonne nouvelle. Dans un monde de personnes, Dieu utilise des personnes pour faire connaître son évangile. Le fait que Dieu nous a laissé non seulement l'Écriture, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, mais qu'il nous envoie nous aussi dans le monde, parmi nos amis, nos collègues, parmi les personnes de nos familles, pour annoncer ce que l'Évangile a fait dans nos vies. Donc l'Écriture, le Saint-Esprit en nous, et nous-mêmes à l'œuvre pour faire connaître l'Évangile. Cela se termine par le baptême, par le baptême. Et le verset 37 dit, Philippe dit, voici de l'eau, c'est l'Éthiopien qui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fait arrêter la voiture et le texte nous dit que Philippe et l'Éthiopien descendent tous deux dans l'eau et Philippe le baptise. Alors la demande de ce dignitaire peut étonner, mais cela montre tout simplement que cet homme avait compris l'essentiel de l'Évangile et qu'il voulait vraiment témoigner aux autres publiquement de sa foi, sans honte, sans avoir honte, il voulait témoigner. Cela rappelle ce que Jésus disait, n'est-ce pas? Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Et après, ce récit se termine par la joie immense dans le cœur de cet homme. Il repart avec joie. La joie du salut, la joie du salut. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de joie au ciel lorsqu'un pécheur se repent, lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur. Mais il y a aussi beaucoup de joie, n'est-ce pas, d'annoncer la bonne nouvelle et de pouvoir partir avec cette bonne nouvelle dans son cœur. Et la tradition nous dit que cet homme a fait après un bon travail d'évangélisation dans son pays. Vous êtes peut-être ici parmi nous la première fois, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous pour la première fois. J'aimerais vous dire que ce n'est peut-être pas par hasard que vous êtes là. C'est peut-être parce que le Seigneur est aussi en train de travailler dans votre cœur comme il l'a fait dans le cœur de cet homme. Peut-être vous vous posez des questions aussi sur la foi. Le Seigneur est en train de travailler dans votre cœur. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de vous dire de faire exactement la même chose que ce dignitaire a fait, de se faire baptiser et de témoigner de sa foi au Christ. Savez-vous que Jésus-Christ est mort pour vous sur une croix? Savez-vous qu'il est ressuscité des morts pour vous donner la vie éternelle à vous aussi? Si vous le savez, voici de l'eau. Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Que le Seigneur bénisse sa parole.